Drew McIntyre here from WWE. Wielding the Claymore can be a life of chaos. When I'm not dominating in the ring, Chumba Casino is how this warrior takes a wee break. With hundreds of online social games and new weekly releases, there's always something fresh to try. And those daily boosts, next level. Even my free time feels like Valhalla. So when life feels like a battle, kick up your feet, have some fun, and let's Chumba.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See T's and C's. 21 plus. Sponsored by Chumba Casino.
You're listening to a podcast right now. Driving, working out, walking the dog. If you're into podcasts, chances are you have something to say too. With RSS.com, starting your own is free and easy. Upload an episode and we distribute it to Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, and hundreds more. Track your listeners, see where they're from, and start earning from ads like this, even with just 10 listeners a month. If you've been thinking about starting a podcast, this is your sign. Start free at rss.com.
Charbel, on a parlé des Américains, des Russes, des Chinois, des Israéliens. Et pourtant, la France essaie d'exister. Est-ce qu'elle existe, là? Est-ce que Macron existe?
Bien sûr que non, qu'elle n'existe pas. Et personne ne le prend au sérieux. Ils s'en foutent, c'est pour ça qu'ils servent de lui comme un pion.
Mais par contre...
Il appelle...
Oui, peut-être, mais on a fait des reportages avec Farid, et puis les gens, ils étaient très contents. Ils disaient, ah, quand même, enfin, notre président...
Les gens, c'est pas eux qui prennent les décisions. Hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ceux qu'on va envoyer là-bas, et qui risquent d'y laisser leur peau. C'est ça qui m'intéresse. Que pense... Jean-Robert, dans les rues de Paris, je m'en fous un peu en fait. Tu vois, c'est moi ce qui m'intéresse, c'est le résultat. Quel résultat ? Parce que les postures d'un président de la République, c'est le chef des armées. Quand il prend une décision, ça peut faire des morts derrière. Alors quand c'est justifié, moi j'ai été soldat français, donc quand on s'engage, c'est un pacte qu'on signe avec la nation, au péril de sa vie potentiellement, oui, mais pour une cause juste. Pas pour servir de béquille aux Américains, à Netanyahou.
Et ouais, ça peut dégénérer, la façon dont tu parles, ça peut dégénérer alors.
Bien sûr que ça peut dégénérer, on peut se faire déglinguer. Qu'est-ce que, dans le détroit Hormuz, on peut se faire déglinguer, je suis désolé, il y a encore des navires qui ont été éclatés aujourd'hui, il suffit de suivre l'actualité. Il faut aller regarder ce qui se passe là-bas, pas ce qui se dit ici, ce qui se dit là-bas. Moi je fais un point, si tu veux, un point d'actualité toutes les 2-3 heures, en allant regarder sur les médias arabes, sur les médias israéliens. Alors, sur les médias israéliens, t'arrives pas à voir des vidéos de ce qui se passe vraiment là-bas, des impacts et compagnie, t'as du mal. T'as des vidéos qui circulent... Non, mais sur les autres, si. Mais au Liban, ils vous montrent...
C'est la démocratie,
Charles. Au Liban, ils vous montrent tout. Hein. Ouais. Ils vous montrent tout. Au Liban, c'est vraiment, on a tout.
Même les chars Merkava qui ont été...
On nous montre tout. Il faut aller chercher, il faut aller regarder, là, faut trouver. Il faut lire l'arabe, il faut aller... voilà. Et donc, si tu veux, je fais un point comme ça. Et quand je lis, franchement, ce que je trouve là-bas, et quand je vois comment est traitée l'info ici, j'ai un écran dans mon bureau qui tourne en boucle sur les trois chaînes.
Hein. C'est quoi le différentiel?
Le différentiel, c'est qu'ici, on va te prendre une situation donnée et on va te la faire tourner en boucle toute la journée. Alors, tu vas sur LCI, tu vas sur CNews, tu vas sur BFM TV, c'est quasiment la même chose. On est complètement désinformé. Et ce qui fait que ça forge une fausse opinion de ce qui se passe. Ça forge une fausse opinion de ce qui se passe.
C'est colossal, d'ailleurs.
Comment ?
C'est colossal.
Mais c'est immense. Et après, quand tu viens amener des faits qui se sont produits là-bas, oui, tu cites pas tes sources. Oui, mes sources, c'est un peu dit d'immédiat, si tu veux. Aujourd'hui, on est en train de se servir de nous. Comme une espèce de pion qu'on déplace à loisir.
C'est qui, nous? Alors... C'est la France?
Mais bien sûr, nous, la France, mais bien sûr. Il y a un VRP qui est là, et moi, ce qui me choque, c'est le mutisme de Bruxelles et des autres chefs d'État. Quand je vois Merz qui lâche Sanchez en une fraction de seconde, mais elle est où l'unité européenne qu'on nous vend depuis le début?
Alors, c'est pas très vrai ce que tu dis, parce qu'il y a des gens qui nous ont répondu en micro-trottoir, enfin en reportage plutôt, pardon, ils nous ont dit, écoutez, je suis très bien informé par Antenne 2.
Hein. C'est vrai, effectivement.
Non, mais est-ce que c'est vrai ou pas?
Non,
c'est
merveilleux. Effectivement, sur la couverture médiatique, comme on dit, hein, la première victime de la guerre, c'est la vérité. Et là, force est de constater qu'effectivement, le terrain israélien est complètement verrouillé. D'ailleurs, je crois qu'ils ont sorti une nouvelle loi, il semblerait, je parle au conditionnel,
logo, c'est eux,
que
hein.
Comme quoi, effectivement, ceux qui mettraient des images, ceux qui mettraient des images ou qui publieraient des images sur les réseaux sociaux risqueraient de se faire poursuivre. Alors, il semblerait que ce soit le cas à l'heure actuelle. Donc ça, c'est problématique. Et puis, on a toutes les images derrière de l'Iran, Téhéran sous les bombes. Mais quand on a envie de se renseigner, effectivement, sur les impacts sur Israël, effectivement, là, c'est le vide intersidéral, on n'a absolument rien, c'est compliqué de savoir la vérité. Voilà, donc, comment va exister Macron, pour revenir à ta question initiale, par rapport à cette escalade.
Non, on parle un peu de Macron, là.
Non, parce que, franchement, j'ai du mal à comprendre. Il y a déjà un deuxième front qui s'est ouvert maintenant avec cette guerre en Iran. On a eu du mal à sortir de cet empêtement au niveau de l'Ukraine. Au niveau de l'Ukraine, bah on y est encore, mais vraiment, c'est-à-dire nous a ruinés. En termes de matériel, on a vu effectivement
Par contre, eux, ils ne sont pas ruinés parce qu'ils chantent beaucoup dans les rues de Paris, hein, je remarque. Hein. Oui, non Surtout la Bastille.
C'est vrai, ça si tu fais référence à un reportage, le reportage précédent, effectivement.
Et le prochain qui arrive.
C'est vrai qu'ils chantent beaucoup. Mais... pour revenir justement à mon propos, c'est vrai que à l'heure actuelle, je ne vois pas les réserves ou la possibilité d'action de la France matérielle déjà, matérielle et même humain, parce que derrière on a certes une armée de métiers, mais on va l'envoyer où ? Sur le Détroit, on a compris qu'effectivement, ils n'ont pas du tout les clés du lieu. Mais, il n'y a pas de possibilité de sécuriser les lieux. Ça, c'est clair. On va se faire dézinguer. Et je ne comprends pas la posture de Macron à l'heure actuelle, à part faire de la com. Il ne peut absolument rien faire. Il gonfle les muscles qu'il n'a pas.
T'as raison. Mais Jean-Michel, est-ce que justement cette communication vise peut-être à actionner l'article 16 ?
C'est ce que j'allais dire.
Ah, toi et moi, on est connectés, t'as vu ?
Me la volée de la bouche, bien entendu, Macron, chef de guerre, il a commencé, nous sommes en guerre quand il parlait du Covid, la bête de l'événement est arrivée, il ne peut exister, se sauver que par cette fuite en avant perpétuelle, mais il a des ambitions européennes, certes, et même au-delà, puisqu'il avait consulté Jeffrey Epstein sur la question. Et Jeffrey Epstein aussi, c'est les réseaux, le maillage sur le Proche-Orient était tout à, dans le Golfe était tout à fait extraordinaire. Donc Macron veut non seulement se sauver, mais rebondir. Article 16, apparaître comme le sauveur de l'Amérique. Netanyahou est le sauveur de la planète, le sauveur de l'Occident, le sauveur de tout le monde, sauf des Gazaouis, évidemment. Et nous, M. Macron essaye de se donner cette stature, mais il n'y arrivera pas. C'est évident.
Mais justement, Laurent, est-ce que Macron cherche justement à faire croire qu'il va rentrer dans une guerre, à mondialiser peut-être cette guerre pour peut-être, in fine, gratter du pouvoir ?
D'abord, oui, effectivement, l'article 16, ici, qui lui permettrait de se maintenir au pouvoir, ce qu'il n'a plus l'occasion de faire maintenant, en tout cas constitutionnellement. Et puis, je pense qu'effectivement, l'extension du conflit serait tout à fait bénéfique à l'Occident, en général, pas juste à la France, parce que l'idée, c'est de faire rentrer la Chine dans le conflit, de faire rentrer d'autres pays dans le conflit, notamment, on pense à l'Azerbaïdjan. Si l'Azerbaïdjan, qui vient souvent à l'aide d'Israël, entre dans le conflit, eh bien, il se pose la question de... l'Arménie, de la Turquie évidemment, parce que l'Azerbaïdjan, s'il rentre en conflit, Bakou va disparaître.
De quoi ça veut dire que ça va être mondial ça ?
Oui, donc le baril de pétrole à 200, la Turquie va s'y mettre, et la Chine au bout d'un moment, parce que le détroit d'Ormuz est quand même très important pour la Chine. C'est pas une question de vie et de mort pour la Chine, ça l'est plus pour les monarchies locales, mais c'est quand même quelque chose qui est fondamental pour la Chine, pour les routes de la soie et choses comme ça. Et l'idée, c'est en fait de mondialiser le conflit, parce que c'est ce qui permettra, aussi bien aux États-Unis, à Israël et à des gens comme Macron, mais il n'y a pas que lui en Europe, de se sortir du bourbier dans lequel ils sont. Ils sont complètement empêtrés, il n'y a que le chaos qui peut éventuellement
leur donner une porte de sortie. C'est-à-dire qu'ils pourront dire, mais c'est pas de ma faute, c'est à cause de l'Iran.
Voilà, au plus ça se mondialise, au plus il y a d'opportunités de trouver des excuses.
Recours à l'arme nucléaire également, c'est pas exclu.
Recours à l'arme nucléaire ?
Bien sûr, pour des frappes de démonstration. On a envisagé, juste en un mot, on a envisagé des frappes dans les déserts iraniens comme une sorte de coup de semonce pour tétaniser tout le monde. On transgresse, on prend... Voilà.
Moi, je trouve qu'on a effectivement... Après, je ne vais pas rentrer dans une thèse pseudo-complotiste, mais il y a quelque chose, moi, qui m'interpelle depuis le début de ce conflit. C'est-à-dire qu'on a l'impression que Trump est rentré le pied dedans vraiment pour un sort de nuage de fumée pour faire oublier les dossiers Epstein.
Ah bon ?
J'ai cette impression, c'est flagrant.
C'était pas préparé, c'est sûr.
C'est même pas préparé. C'est-à-dire que.
Attends, laissez-vous parler. Vas-y.
C'est-à-dire qu'effectivement, il rentre dedans sans même avoir préparé, en étant en conflit avec ses conseillers qui lui disaient surtout de ne pas y aller parce qu'effectivement, l'Iran, c'est pas le Venezuela. Et derrière, on a notre cher président qui lui aussi est empêtré dans ses dossiers Epstein, qui se dit voilà, je vais essayer de noyer un petit peu le poisson et de me faire voir sur le porte-avions en tant que chef de guerre. Tant qu'on ne parle pas de Epstein et de moi affilié à ça, c'est toujours mieux que rien. Non, honnêtement, il y a à quoi de se poser les questions. Je ne suis pas dans leur tête, je ne suis pas psychanalyste, mais il faut s'interroger. Effectivement, vu la dimension et surtout les derniers rapports qui sont sortis là, sur les derniers fichiers, je crois qu'il y en a eu 50 000 qui sont sortis, effectivement, ou qui montrent que Trump est vraiment les deux pieds dedans, quoi.
Qu'est-ce que t'en penses ?
Je me dis
tu crois ça, dans cette théorie ?
Trump, il est vraiment très, 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 très mal barré dans cette histoire.
Je pense que la planète et l'univers est mal barré. À partir du moment où il y a les Rothschild dedans, tout le monde est... C'est tentaculaire, cette affaire. Non, moi, je pense pas qu'on déclenche une guerre d'une si grande ampleur pour on justement... Pour ça. Non, mais enfin, je veux dire, il y en a qui ont été dézingués sans déclencher de guerre quand ils gênaient, hein. Kennedy, il s'est fait dézinguer sans déclencher de guerre. Je veux dire,
il voulait bloquer le programme nucléaire israélien.
Ce que je veux dire, c'est que dans cette histoire, déjà, quand on parle de Maduro, moi, ça me fait sourire quand on parle de Venezuela, parce que pour en revenir au Venezuela, déjà, on n'a pas de nouvelles de Maduro, on ne sait pas ce qu'il vient. On sait qu'il est dans une prison, peut-être, mais on a quand même enlevé en pleine lune, en utilisant la Delta Force, le président d'un pays dont l'armée possède plus de 5000 roquettes anti-hélicoptères, anti-aviation. Il y en a une qui a été tirée. Et c'est un type, quand même, qui avait, je ne sais pas s'il l'a toujours, une énorme villa en Floride. Non, mais j'ai envie de dire, on se fout de la gueule de qui ?
Maduro, là.
Bien sûr ! Mais qu'est-ce que c'est que ce cinéma, là ? Non, mais attends, la Delta Force en pleine lune ? Non, mais attends, la Delta Force, elle traverse le Venezuela en pleine lune, il n'y a pas un tir dessus ? Mais il y a quelque chose de bizarre dans cette histoire.
Les valises de dollars. Bien sûr.
Donc l'histoire de... Enfin, je veux dire qu'il n'y a que LFI qui croit à l'enlèvement de Maduro. Hein. Mais ça s'arrête là. Enfin, pour moi, c'est comme ça. Non, mais c'est clair. Après, quant à cette histoire de déclenchement de guerre pour l'affaire Epstein, je ne dis pas que ce n'est pas vrai. Mais je dis que moi, j'ai du mal à croire qu'on soit au bord. Parce qu'il faut que ça... Mais le Proche-Orient, il faut savoir de quoi on parle. On parle de la poudrière du monde. On parle vraiment de l'endroit, de ce globe, où il y a une concentration de tous les intérêts de la planète.
Et de tous les dangers.
Donc vous déclenchez pas une guerre à ce moment-là. Si déclencher une connerie à la Maduro, pour faire oublier peut-être au Cuba, ou tu vois, d'ailleurs ils ont dit à Cuba, il vous reste très peu de temps, ils veulent mettre Marco Rubio. Tu vois,
on fera la Riviera,
veut récupérer le Groenland. Tu penses qu'il a, il a tout. Il réfléchit comme quelqu'un, on va dire, de normalement
mais
constitué.
Mais c'est une fumisterie, le Groenland.
Non, mais t'as compris. C'est-à-dire que le mec, il est dans la surenchère perpétuelle. Ça m'étonnerait pas c'est que sur un coup de sang comme ça, il soit parti carrément dans du grand n'importe quoi, en pensant qu'effectivement, il avait toutes les cartes en main pour avoir. Pour déclencher une guerre éclair, comme il l'imaginait, et il est tombé sur un as. Mais derrière, effectivement, on peut se poser des questions, on peut s'interroger. Moi, je me dis que... venant de Trump, tout est possible.
Tout est possible, parce que Trump fait du Trump, et il est imprévisible,
voilà,
il est comme ça.
On est d'accord.
Ah, non, mais là-dessus, on est d'accord. Mais ce que je suis en train de te dire, c'est qu'on ne déclenche pas une guerre d'une si grande ampleur dans la poudrière du monde... pour cacher que t'es impliqué dans les affaires Epstein.
Sauf Trump.
Mais peut-être les affaires sont beaucoup peut-être. Plus importantes qu'on ne
mais
le pense.
Mais il y a un autre truc, il y a un grand absent aussi de ce débat, c'est la situation du Proche-Orient. La situation du Proche-Orient aujourd'hui, moi j'avais fait un podcast là, sur mon Patreon en expliquant la situation de 1916 jusqu'à aujourd'hui. J'ai appelé ça l'explosion programmée. Ça devait péter à un moment ou à un autre. Alors il y a eu l'accélérateur qui s'appelle Netanyahou, et il y a eu... son homme de main qui s'appelle Trump, puisqu'il faut savoir que Trump, quand même, s'est bien fait mener par le bout du nez par Netanyahou, et ça fait des mois et des mois, voire peut-être des années, j'en sais rien, qu'il le travaille. Mais le Proche-Orient, c'était une explosion qui était programmée. C'est des cartes qui ont été dessinées par deux types, un anglais et un français, sur le coin d'une table.
Tyler Reddick here from 2311 Racing. Victory Lane? Yeah, it's even better with Chumba by my side. Race to ChumbaCasino.com. Let's Chumba.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See TNCs 21 plus. Sponsored by Chumba Casino.
En misant sur la défaite de l'Empire Ottoman, enfin la Première Guerre mondiale.
Ça explique.
Ça explique, bien sûr. Attends, juste une seconde.
Vas-y.
En misant sur la défaite de l'Empire Ottoman, l'Empire Ottoman tombe avec la fin de la Première Guerre mondiale et ils se partagent. Et à partir de là, il y a eu une succession d'événements durant un siècle, avec des blessures qui n'ont jamais été refermées, avec tout un tas de catastrophes que les peuples ont subies sur place. Et tout ça, c'était... Alors, il faudrait faire une émission là-dessus. Mais tout ça, bah, ça couvait, et ça a fini par péter là.
Cher Laurent, on peut l'expliquer comme ça? Ou pas?
Moi, je pense qu'il y a d'autres enjeux. Ben, c'est pas monocausal, c'est sûr et certain. Je pense que c'est pas juste l'affaire Epstein, se sortir du bourbier de l'affaire Epstein. C'est pas non plus qu'une question de régler le problème du Moyen-Orient, parce que ça aurait été fait auparavant. Je pense que là, on est vraiment en fin de course pour l'Occident. La machine à billets qui tourne depuis trop longtemps aux États-Unis. Et il faut une crise pour, en fait, camoufler, pour noyer le poisson, en fait. Et là, c'est parfait. C'est parfait pour Trump et puis tous les gens qui sont derrière, parce qu'on parle beaucoup de Trump. Moi, j'ai l'impression que Trump n'est pas du tout aux manettes, qu'il est entraîné par Netanyahou, comme tu le disais, et puis il y a d'autres personnes derrière.
Qu'est-ce qu'ils en pensent en Chine, justement, de Trump?
Alors, il l'aime bien parce que il entraîne tellement les États-Unis vers le fond que finalement, il pousse la Chine vers le haut. Donc, en fait, il l'appelle le Trump, le bâtisseur du pays, mais en parlant de la Chine, pas des États-Unis. Donc, il l'aime bien, il le trouve drôle, il est complètement inefficace et contre-productif, donc c'est très bon pour la Chine. Mais justement, puisqu'on parlait tout à l'heure de la propagande qu'on subit en France médiatique, et qu'effectivement l'homme de la rue comprend pas trop ce qui se passe, ou alors il se retrouve à soutenir Israël et les États-Unis, ce qui est intéressant, c'est que dans un pays comme la Chine, où il n'y a pas du tout accès aux médias occidentaux, puisqu'ils sont bloqués, eh bien, il y a eu une vague de solidarité de la population chinoise qui envoie des dons à l'ambassade iranienne à Pékin, et l'ambassade iranienne a dû mettre sur son site web un message en disant « On n'en a pas besoin pour l'instant, mais merci au peuple chinois de sa solidarité ». Donc les gens, ils comprennent, ils ont très bien vu que l'Iran avait été attaqué par les Israéliens et les États-Unis. Tout le monde sait pourquoi. Et ce qui est surprenant, si vous allez en Chine, vous verrez, vous discutez avec un chauffeur de taxi, avec un serveur de restaurant, avec des gens qui, on a l'impression, ne seraient pas plus informés que leur équivalent ici en Europe, mais ils sont beaucoup plus informés des questions de géopolitique, en tout cas dans les grandes lignes.
Alors, cher Jean-Michel, je sais que tu veux rebondir, mais je veux aussi après que tu parles un peu des conséquences qu'il pourrait y avoir ici en France.
Alors, deux choses. Je ne suis pas non plus monocausal. L'affaire Epstein n'est sans doute qu'un élément. Si l'affaire Epstein est entrée dans le dossier du conflit, il y a une hypothèse aussi, parce que tant qu'à être conspirationniste, il faut l'être véritablement. Et de toute façon, la guerre actuelle est une conspiration contre la paix et contre les peuples. Et contre la liberté des peuples et contre notre propre liberté. La conspiration, elle existe. C'est qu'il y aurait eu ce chantage. On tient effectivement M. Trump peut-être un peu par les couilles. Mais
ça fait
aussi
deux fois.
Oui, j'ai remarqué.
Je remarque que ça fait deux fois. Pour un journaliste du Figaro, d'antan.
Deux fois aujourd'hui?
Ah oui, deux fois. Là, je ne sais pas ce qui se passe.
Je pensais que c'était la première.
Vas-y, continue.
Alors, il y a aussi un chantage. J'en reviens toujours au chantage nucléaire. Vous connaissez l'option Samson, si nous sommes au bord de couler, vous coulez avec nous. L'option Samson, c'est-à-dire on ne coulera pas seul et vous paierez le prix de notre faillite. On a peut-être mis entre les mains de Trump, dire si vous n'y allez pas, ben nous, on y va et on prendra les grands moyens. C'est pas absurde, c'est même peut-être un peu plausible, et donc Trump mis au pied du mur, dit « bon, il faut gérer la chose. Nous ne sommes pas les organisateurs, mais feignons de l'être. Hein. » Et il ne faut pas oublier que le premier coup de décapitation, ce sont les Israéliens qui l'ont porté.
C'est après qu'ils sont intervenus, les Américains.
Oui, les Américains ont brillé. Bon, enfin bon, les plans étaient faits, on dit, depuis le 29 décembre, quand M. Netanyahou est venu à Mar-a-Lago. Donc il peut y avoir un chantage. Ce n'est pas du conspirationnisme pur, c'est dans l'ordre des choses.
Et l'attitude de Macron, c'est quoi? C'est pour faire oublier qu'il va y avoir une crise
Macron, il est à la ramasse.
Importante.
Macron est à la ramasse, il est largué, il essaye de rentrer dans le jeu.
Est-ce qu'il peut rentrer dans le jeu?
Pardon?
Il peut rentrer dans le jeu.
En faisant le con, en envoyant
Il y avait eu un précédent avec Hollande.
Non, mais pourquoi pas
le...
On vit dans un monde tragique, il faut voir le vocabulaire de notre époque.
Il était prêt à y aller, et puis finalement,
on n'y va plus.
Il est trop content d'y aller. N'oublions pas qu'il avait consulté Epstein, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, ça. Je le répète, tout ça forme un tout. On est dans un univers epsteinien. Nous sommes en Epsteinie ou en Epsteinland. Tout est intriqué. L'État américain est devenu un État mafieux. L'État profond est absolument tout puissant. Et on découvre, c'est l'apocalypse, hein, il y a une révélation. On découvre qui sont les véritables maîtres du jeu et du monde.
Les conséquences, du coup, merci Jean-François Michel, les conséquences, Farid, ça va être désastreuses ici. Déjà, $115 le baril.
On commence à les voir à la pompe, mais je pense que ça risque de venir. Mais c'est vrai qu'il faut le voir sur plusieurs aspects. Il y a un côté aussi messianique et eschatologique aussi dans la tête de certains dirigeants américo-israéliens. Mais au-delà de ça, eschatologique, donc il y a un moment donné où on se dit... quand Macron dit face caméra, la bête de l'événement arrive, ces mots-là prennent tout son sens. Et j'ai l'impression que sa volonté de nous ramener vers la guerre, alors qu'il n'y a aucun intérêt d'y aller, alors qu'il n'y a aucune raison du droit international d'y aller, même
c'est
si on
n'a pas les moyens d'y aller.
Rip le droit international, on voit que derrière, ils ont une vision qui, pour nous échappe, dans le sens où il y a un côté spirituel, religieux. Mais religieux, je ne vais pas dire dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'il y a un côté nihiliste. Il y a un côté nihiliste derrière.
Les obscurantistes, ce n'est pas les Américains, ni les Hébreux, ce sont les Mollahs. C'est eux les obscurantistes.
Là, je sens une pointe de sarcasme de ta part, naturellement. Non, mais c'est grave, effectivement, l'inversion des valeurs. Je ne parle pas au niveau des Mollahs, mais à l'heure actuelle, dans notre société, c'est vrai que je pense qu'on tire vers les abîmes. Et force est de constater que les dégâts en France et en Europe vont être incroyables. Économiquement parlant, déjà l'électricité avait flambé avec cette guerre en Ukraine, c'était compliqué. Là maintenant, avec le détroit d'Ormuz qui est totalement verrouillé... Et va continuer encore. Mais ce que j'ai envie de dire, là ce qui est intéressant de voir et d'analyser sur les jours à venir, c'est par rapport justement à cette claque qu'a pris les pays du Golfe. Dans le sens où ils ont remarqué qu'effectivement, ils ont totalement été abandonnés par les États-Unis. Donc le salut et la protection ne viendra pas des États-Unis. Et ça, c'est une leçon chèrement apprise de la part de ces monarchies du Golfe qui va faire que demain, est-ce qu'effectivement, ils vont totalement demander aux bases américaines de partir parce qu'ils les mettent en danger ? Il y a une possibilité, il y a des troubles qui commencent à se faire ici et là dans certaines monarchies, apparemment ça commence à taper fort, mais derrière, est-ce que, on se souvient, est-ce que les accords de Bretton Woods vont continuer avec le pétrodollar ? Est-ce que les BRICS qui attendent, on va dire, derrière le sous-bois va sortir et va commencer à prendre la place qu'ils doivent prendre ? Est-ce que derrière toutes ces monarchies du Golfe vont plus justement commercer en dollars ? C'est la chute du dollar, c'est la chute de l'empire américain, de l'impérialisme et de l'image occidentale, et c'est l'émergence du Sud global comme il devait être sorti depuis...
T'as pas l'air d'accord,
cher
Charbel. Cher Charbel.
J'ai vécu à Dubaï pendant 2 ans, je peux vous garantir que pour moi les monarchies...
T'as vécu avec qui ? Avec Nabila, tout ça ?
Non, pas avec Nabila, j'étais agent immobilier, je travaillais dans l'immobilier là-bas pendant 2 ans. Et je suis revenu parce que pour des raisons familiales. Moi, je pense pas que... Je pense qu'ils font partie, si tu veux, de la stratégie du problème. Il y a un truc qui m'a un petit peu étonné, c'est qu'ils en prennent plein la gueule, il n'y a pas un missile qui part. Des monarchies du Golfe en direction...
Comment tu l'expliques ?
Moi, je l'explique, parce qu'ils ont reçu l'ordre de rester tranquille.
De la part de qui ?
De la part de qui ?
Ils n'ont plus de radar.
Non, mais c'est même pas ça.
Mais il faut dire les termes.
Attends,
il faut dire
Dubaï,
les termes.
Si, ils interceptent à Dubaï. À Dubaï, ils interceptent, j'ai mes potes qui sont là-bas.
Bon, et alors,
c'est intercepté.
Qui a dit quoi ?
C'est intercepté. Moi, je pense que les Américains ne les ont pas encore fait rentrer dans la danse, ils les gardent en réserve. Mais il n'y a pas un missile, il n'y a pas une riposte sur l'Iran.
Non, mais non seulement ça, mais aujourd'hui, il y a Lavrov qui a fait une réunion à Moscou avec tous les ambassadeurs des pays du Golfe et il leur a dit : j'ai appris que demain, vous allez déposer à l'ONU une motion de censure contre l'Iran. Il dit, qu'est-ce que vous faites? C'est vous qui êtes en train de vous faire bombarder. Vous n'avez pas dénoncé ce qui est l'attaque. Vous n'avez pas dénoncé les 170 filles dans l'école, les bombardements d'hôpitaux. Vous n'avez rien dénoncé. Et là, maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez dénoncer l'Iran à l'ONU. Il a dit, ça défie toute logique. Parce que, vous, en fait, en condamnant l'Iran, en fait, vous justifiez ce que les États-Unis et Israël font. Voilà. Donc, effectivement, je ne pense pas que les pays du Golfe, malgré ce qu'ils ont subi, ce qui est peut-être, ils n'ont peut-être pas subi encore tout ce qu'ils peuvent subir. Hein, on parle de.
Enfin, venant quand même de Lavrov, ce qu'ils ont fait en Ukraine depuis 2022, bon, le droit international, tout ça, oui, c'est un peu discutable. Quand
non,
même.
Mais d'accord, mais c'est, il part d'une logique dans le sens où, effectivement, vous plaignez d'être bombardé, mais vous allez finalement aux Nations Unies dénoncer le pays, pas le pays qui riposte, pas le pays qui est attaqué.
Ils ont le cul entre deux chaises. Voilà. Je pars toujours dans le même registre.
Très bien, bravo.
Ils ont le cul entre deux chaises. Ils ne savent pas entre mes deux que mon cœur balance. Il faut ménager les États-Unis. Il faut. Bon, c'est insupportable comme position.
Non, mais il n'y a même pas une riposte. Mais vous vous faites tirer dessus. Je vois par exemple au Liban, le Hezbollah, pas le Hezbollah, ça riposte. Ben, le Liban à son échelle. On a bombardé Dubaï. On a bombardé Abu Dhabi. Il faut savoir de quoi on parle. On parle du hub économique.
Qatar a arrêté sa production pétrolière.
Ben oui, même l'Irak. Tous, ils se sont fait taper. Mais il n'y en a pas un qui a riposté. Même l'Irak n'a pas riposté. On a bombardé le hub économique mondial. Il faut savoir ce qui se passe à Dubaï. Qu'est-ce qu'il y a à Dubaï? À Dubaï, vous avez plus de 200-250 nationalités. Il y a toutes les grosses compagnies mondiales.
Qu'est-ce qui est bombardé à Dubaï aujourd'hui?
Bah, ça tire sur l'aéroport, ça tire sur les...
Non, mais tout est détruit. Comment ça se passe?
Non, tout n'est pas détruit. Mais il y a beaucoup d'interceptions. Mais ça a tapé sur l'aéroport, par exemple, plusieurs fois sur l'aéroport. Ça a tapé sur Burj Al Arab. Ça a tapé. Comment?
Il y a un hôtel en feu là. Je crois que le fer monte.
Oui, à la marina, il y a une énorme tour. D'ailleurs, je visite là. Non, pas Marriott. Pareil, elle s'est pris. Elle s'en est pris.
Oui, parce qu'il y avait des soldats américains, des personnels américains.
Oui, alors après, les raisons, voilà, comme chez nous, les Israéliens ont tapé sur un hôtel à Beyrouth où il y avait des mecs du Pass d'Aran à l'intérieur. Voilà, ils ont fait 4 morts. Enfin, voilà, c'est après ça, c'est la guerre, c'est comme ça. Mais ce qui m'étonne, moi, c'est que ça bouge pas, tranquille. On se fait taper sur la tronche, ça bouge pas. Alors qu'à Dubaï, vous dites, vous faites une insulte envers quelqu'un, vous finissez en prison.
Mais je pense qu'il y a peut-être quand même un élément qu'il faut, qu'il faut tenir en compte, c'est que s'il riposte, pour l'Iran, c'est porte ouverte, c'est-à-dire les usines de dessalement d'eau de mer et les raffineries.
Mais ils ont déjà tapé,
il a raison.
Oui, mais.
Bahreïn,
voilà, mais tout ça perdre, ils ont énormément à perdre. Et là, c'est la catastrophe humanitaire en 2 semaines. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'eau pour tout le monde. Tout le monde doit partir. Voilà.
Et n'oublions pas que ces monarchies du Golfe ont quand même axé une grande partie de leur avenir sur une communication de pays pour riches, safe. En dehors de tout conflit. Ouais. Et effectivement, s'ils ripostent et puis il y a escalade derrière, bah, qu'est-ce qui va se passer? Bah, derrière, tout le monde va partir, vont prendre leur bille et puis fini pour ces monarchies-là. Donc, effectivement, c'est
très
compliqué. Ménager la chèvre et le chou, ils savent pas comment.
C'est la première chose. Et le pire, c'est que les États-Unis ont bombardé une usine de dessalement en Iran. Alors, c'était une petite qui alimentait quelques villages. Mais enfin, l'Iran a dit, bon, là, il y a un précédent. Donc.
Mais ils ont tapé aussi.
On peut bombarder. À ma Bahreïn, oui. Ouais.
Tyler Reddick here from 2311 Racing. Another checkered flag for the books. Time to celebrate with Chumba. Jump in at ChumbaCasino.com. Let's Chumba.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. CTNCs 21 plus. Sponsored by Chumba Casino.
You're listening to a podcast right now. Driving, working out, walking the dog. If you're into podcasts, chances are you have something to say too. With RSS.com, starting your own is free and easy. Upload an episode and we distribute it to Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, and hundreds more. Track your listeners, see where they're from, and start earning from ads like this, even with just 10 listeners a month. If you've been thinking about starting a podcast, this is your sign. Start free at RSS.com.